BFM Bourse, on refait la séance.
Grâce à Bertrand Lamiel aussi qui joue à nous, Ports en Part Gestion. Bonsoir Bertrand.
Bonsoir.
Ravi de vous retrouver. Romain continue de nous accompagner bien sûr. Puis on appellera tout à l'heure également Christian Fontaine. Toute la team réunie pour vous répondre, mesdames, messieurs. N'hésitez pas d'ailleurs chaque jour sur nos réseaux sociaux à nous envoyer vos interrogations. Quand même, une des thématiques qui ressortent gagnantes de cette première séance de la semaine, force est de le constater, c'est la thématique défense, Bertrand. Thalès termine en tête du CAC, plus 1,9%. On a aussi Dassault Aviation qui progresse. Bon, cette thématique défense, comment est-ce que vous la regardez? Est-ce qu'elle a encore beaucoup de potentiel dans le contexte géopolitique, bien sûr, et comment est-ce qu'il faut, quitte à y investir, comment est-ce qu'il faut l'aborder?
Alors, sur Dassault Aviation qui signe une très belle séance aujourd'hui, hein, 7,31 avec un gap nouveau plus haut. Donc, si on s'arrête là, on se dit, magnifique, tout va bien. Il faut quand même dézoomer, revenir un peu en arrière. L'essentiel de la performance sur les valeurs de défense, il était fait sur le premier trimestre 2022. Au moment où le conflit en Ukraine a éclaté. Derrière, certes, ça a continué à performer, puisque par exemple, une Dassault Aviation qui était à 160 est aujourd'hui à 200. Donc on peut se dire très bien. Mais globalement, elle a fait la performance de l'Eurostox. Donc la surperformance est terminée. Donc nous, on n'est pas à l'achat sur Dassault Aviation. Dans la logique aéro, on a du civil avec un peu de. Ça va être plutôt Safran. Comporte bien et qui, elle, pour le coup, fait de la surperformance, continue à en faire, donc est sur une tendance qui n'est pas démentie, et donc ça fait partie de nos portefeuilles. Et puis après, on a d'autres dossiers en Europe. On va aller soit dans les Nordiques chercher du Saab ou du Kongsberg, qui eux aussi sont dans la défense et qui se comportent mieux qu'une Dassault Aviation, ou aller en Italie avec une Leonardo, qui a indiqué d'ailleurs dernièrement qu'elle allait faire encore des modifications dans son portefeuille d'activité, faire des acquisitions. Et donc, pareil, Leonardo, c'est un dossier qui se comporte bien et en tous les cas mieux qu'une Dassault Aviation. Donc voilà pourquoi la défense, pourquoi pas, mais pas avec le dossier Dassault Aviation.
Même si le titre ce soir, c'est vrai, c'est une des performances remarquables du marché. Effectivement, Dassault Aviation a connu une très très belle séance grâce à un relèvement d'opinion en plus d'Exane à surperformance. D'un point de vue technique, Romain, Dassault Aviation, vous partagez la prudence de Bertrand à l'instant où vous voyez l'avenir davantage positivement pour ce titre?
Mais effectivement, il n'y a pas beaucoup de momentum à prendre encore et d'intérêt encore sur le titre. C'est un titre qui n'a pas bougé, qui n'a rien fait depuis un an quasiment. Il a évolué dans un trading range 171,50, 187,50. Il en est sorti par le haut la semaine dernière et il a déjà atteint sa cible à 204. Alors le titre clôture un petit peu au-dessus aujourd'hui, à 207. Si on veut voir des extensions, la cible suivante c'est 221. Ça fait 5-6% de hausse complémentaire. Est-ce qu'on a déjà atteint une première cible et que donc, après un an de consolidation, on n'a pas beaucoup de momentum encore une fois, et donc s'il n'y a pas d'alerte majeure ou de figure de retournement baissière, on n'a pas encore de marge de progression gigantesque. Le niveau d'alerte en revanche, il est loin, c'est 171,50.
Dassault Aviation qui se distingue. Cette question, tiens, qui nous parvient d'un auditeur. Il s'appelle, il nous écrit régulièrement d'ailleurs, les tontons répliqueurs sur notre fil XBFM Bourse. Il nous demande de parler aussi, au-delà de la défense, du segment, la tech et notamment d'AMD. C'est vrai qu'AMD fait partie des valeurs à suivre aujourd'hui sur le marché américain. Il a raison, les tontons répliqueurs, de nous alerter là-dessus. Sur Intel aussi. Pourquoi? Eh bien parce que la Chine a décidé de bloquer les puces Intel et AMD sur son marché. Alors quand même, la Chine pour AMD, c'est 22% des ventes. Intel, de son côté, réalise 27% des ventes en Chine. C'est pas rien, hein, la décision chinoise donc d'interdire leurs puces sur son territoire et notamment sur les marchés publics. Ça se traduit par une sanction en bourse. Intel perd notamment 2%. Bertrand, votre regard là-dessus, sur AMD ou encore Intel, l'interdiction chinoise des puces, de l'usage de leurs puces, notamment dans les services gouvernementaux et publics chinois. Comment est-ce que vous regardez ça et l'impact des marchés aujourd'hui, la réaction des marchés cet après-midi?
Alors, les tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis, c'est le drapeau rouge qui va être agité régulièrement sur les puces. De la même manière que sur les médicaments, ça va être le déremboursement. Enfin voilà, ce qui fait peur au marché à chaque fois, c'est le même sujet. Donc là, c'est le tour d'AMD. Mais il y a quelques temps, c'était le tour d'Nvidia qui était passé à l'époque de 500 à 400 dollars sur des contraintes et des restrictions à la vente à la Chine. Donc ça fait partie. Donc ça fait des réactions qui sont fortes, mais parce qu'on est sur des dossiers qui à la fois sont plus volatiles, donc qui ont des tendances à avoir des séances avec des amplitudes de variation plus fortes que les autres. Et puis ayant bien progressé, quand on prend des profits, ça peut faire des reculs relativement importants. En fait, AMD, c'est un vrai concurrent pour Nvidia, mais pour le, c'est encore un petit concurrent. C'est, si vous voulez, ça démontre bien que, voilà, quand on a un leader, il faut se concentrer sur le leader, parce que j'ai regardé sur les 5 dernières années, les moments où AMD avait fait mieux que Nvidia, en fait, on a eu 6 périodes de 30 jours. Donc, vous voyez, 5 ans, c'est, on est en train de parler de 1200 jours. Donc, on a eu 6 fois des périodes un peu plus de 30 jours où AMD a fait mieux. Donc, il faut se concentrer sur une Nvidia quand on a une tendance qui est là, qui est forte. Il faut rester sur les leaders. On peut après compléter avec AMD, aller regarder d'autres, mais d'abord avoir le leader et mieux positionné dans le portefeuille qu'un challenger. Depuis 2019, AMD, c'est un super score. Attendez, il faut pas se... Voilà, elle a fait x6 depuis 2019. Donc, eh oui. On serait très content d'avoir fait x6 sur l'intégralité de nos portefeuilles depuis 2019. Le sujet, c'est que Nvidia, elle a fait x22.
Elle a fait x22, voilà. Nvidia. Ah oui.
x22. Ah oui. Là où AMD fait x6. Donc, c'est une illustration que quand une tendance est en place, une tendance dure longtemps, on a plus profit à tirer, à jouer la continuité de la tendance plutôt que de se mettre en face d'une tendance et d'attendre qu'elle se retourne.
Oui, mais sur, alors donc, Nvidia dont vous parliez gagne encore 2% aujourd'hui. Citigroup a relevé récemment son objectif de cours sur Nvidia à 1030 $. On a Oppenheimer qui est passé à 1100 $. On a Goldman Sachs qui est passé sur Nvidia à un objectif de cours de 1000 $. Enfin, est-ce qu'on se dit qu'à un moment Nvidia pourrait être tenté, pourquoi pas, de diviser le nominal pour le rendre à nouveau, le fractionner pour le rendre à nouveau accessible, par exemple, aux particuliers? Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a ça là dans le pipe du côté d'Nvidia pour encore apporter un peu de potentiel à cette valeur?
Oui, pourquoi pas, mais c'est pas dérangeant. Les valeurs en fait font ça parce que potentiellement il peut y avoir des limites à l'intégration dans certains indices. Si vous avez un nominal qui est trop important, vous êtes exclu de si vous voulez concourir pour rentrer dans le Dow Jones, avec un nominal à 1000, vous n'y arriverez pas. Donc mais après sur la liquidité, franchement, on est en train de parler d'une des valeurs les plus grosses du monde, il n'y a pas de sujet de liquidité.
Ah oui, c'est sûr.
Donc c'est pas très grave en soi. Un jour le leadership de boursier de Nvidia sera contesté, peut-être par une AMD, peut-être par une autre qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui, mais en tous les cas, c'est pas la tendance est là, donc il faut respecter et profiter des tendances qui sont en place. Donc sur la tech, il y a des choses à faire, mais à ce stade, peut-être Romain en a d'autres, mais moi j'ai pas détecté de valeur qui était plus forte que Nvidia sur le segment.
Incroyable. Et on voit qu'AMD, alors même si la Chine donc annonce interdire l'usage des puces d'AMD désormais, AMD progresse. AMD n'a pas à rougir en bourse, effectivement, sur la même période, le titre a fait x6, pas mal, même si c'est moins bien qu'Nvidia. Et aujourd'hui, AMD, alors qu'Intel perd 2%, AMD résiste et gagne 0,1%, Romain. Est-ce que d'un point de vue technique, effectivement, vous la trouvez forte, cette valeur, ce titre AMD sur le marché américain?
À long terme, oui. À court terme, c'est un peu plus dégradé. En fait, le titre a validé en décembre dernier une structure de retournement haussière qui était en formation depuis janvier 2022 et sorti par le haut en débordant le niveau de 132,83. Et il est allé chercher le lundi 4 mars la cible haussière idéale du mouvement à 211,20. Depuis, il a formé une structure graphique qu'on n'aime pas beaucoup. C'est une étoile du soir, c'est-à-dire que on a une structure de 3 bougies hebdomadaires qui indique un mouvement baissier et le mouvement s'est validé avec des volumes un petit peu plus lourds. Ils sont pas extrêmement lourds aussi, donc ça limite l'effet baissier, mais une consolidation qui semble se mettre en place. Alors, pas d'alerte tant qu'on est au-dessus de la zone 157,60 sur 64,40, mais il faudrait sinon déborder 195 voire 203 pour activer la dynamique haussière. On va avoir besoin de reconstruire une structure. Pour l'instant, c'est plutôt baissier à court terme.
On vous retrouvera dans un instant. Bertrand, dans un instant, vous restez avec nous. Et Christian qui nous appelle, Christian Fontaine, depuis le magazine Le Revenu. C'est bien vous. Bonsoir, Christian.
Oui, bonsoir.
Vous êtes là.
Bonsoir.
Ravi de vous retrouver, Christian. Ravi de vous avoir au bout du fil, effectivement, pour notre rendez-vous du lundi. Je n'étais pas certain que vous soyez là cette semaine. Vous êtes bien là. Et merci d'être présent et de nous appeler. Thomas nous écrit. Alors, ça tombe bien. On va profiter du fait que vous soyez avec nous pour tenter de lui répondre. Il veut savoir, Thomas, cet auditeur, quelle proportion de son épargne investir en bourse? Est-ce que la règle ancienne du 100 moins mon âge demeure d'actualité? Par exemple, si j'ai 40 ans, 100 moins 40 égale 60%. Je dois donc investir 60% de mon patrimoine en bourse. Est-ce que cette règle ancienne est encore valable, Christian?
Alors, elle demeure d'actualité, Guillaume, mais elle est imparfaite et elle doit être complétée par d'autres critères d'âge. Alors, effectivement, cette règle qui est très en vogue dans les milieux anglo-saxons dit quoi? Dit qu'à la naissance, un enfant, un nourrisson doit placer son épargne, la totalité de son épargne en bourse, 80% à 20 ans, 50% à 50 ans. Donc l'idée sous-jacente, en fait, hein, vous l'avez bien compris, c'est que plus vous avez du temps devant vous, plus vous pouvez vous permettre donc, alors, d'investir vos économies en bourse. Voilà, ça c'est un peu le principe. Et le revenu, en fait, partage un petit peu cette analyse, cette idée globale.
Tout ne dépend pas que de l'âge de l'investisseur, néanmoins. Quand on veut déterminer la proportion d'exposition au marché actions, il ne faut pas juste regarder en fonction de son âge, on est d'accord.
Alors, vous avez entièrement raison. Il faut également regarder, en fait, un peu sa situation personnelle, son aversion au risque, son niveau de revenu, son niveau de patrimoine. Prenons, pour bien comprendre, prenons un exemple. En fait, deux hommes de 45 ans, le premier, par exemple, qui est aisé, donc alors peut se permettre de bloquer l'ensemble de son épargne jusqu'à sa retraite. Le conseil du revenu, ça va être d'investir 100% de son épargne en bourse. À l'inverse, un homme de 45 ans, le même âge, qui est locataire, donc alors des revenus beaucoup plus faibles, le conseil du revenu, ça va être d'acheter son logement et donc de n'investir 0% en bourse. Vous voyez, donc cette règle donc du 100 moins son âge reste d'actualité, mais il faut la compléter. Et au revenu, on préfère plutôt la répartition 60-40. On considère que c'est un peu la répartition gagnante. 60% de placements sans risque et 40% d'actions. Pourquoi c'est la répartition gagnante? Je terminerai là-dessus. C'est parce que c'est la répartition qui permet de gagner 4 à 5% par an dans la durée.
Merci beaucoup Christian Fontaine, le magazine Le Revenu, d'avoir répondu notamment à cet auditeur Thomas qui nous a écrit bfmbourse@bfmbusiness.fr. Bertrand est toujours là, Bertrand?
Oui.
Depuis Ports-en-Part, Bertrand, allez, quelques secondes pour évoquer aussi une autre valeur qui se distingue ce soir sur le marché. On dresse le bilan de cette première séance de la semaine. Believe gagne plus de 5% en clôture. Mérité la hausse de plus de 5%. C'est parti pour durer. Là, on est en pleine martingale boursière, de joue de boursière autour de Believe.
Parti pour durer. Non, je pense qu'il y avait deux acteurs qui se contestent la propriété finale de Believe. Donc, il y a eu dans un premier temps une première prime de 25% qui était mise à 15 euros et ensuite une autre à 40% à 17 euros. Je pense, enfin, à moins de voir surgir un troisième acteur ou d'avoir une surenchère, je pense que le prix est fixé. Mais Believe, si vous voulez, c'est un peu l'illustration. C'est une société qui est rentrée en bourse quand même assez récemment. C'est un peu une illustration, malheureusement, de ce qui est en train de se passer sur les petites et moyennes valeurs, à savoir que la bourse reconnaît pas leur valeur industrielle. Parce que là, on a deux acteurs qui décident que c'est pas cher et qui sont capables de mettre des primes allant jusqu'à 40%. Et que, à ce niveau-là, manifestement, ils auront encore un investissement qui est rentable. Donc là, ça vous donne une idée de la valeur cachée qu'on a sur tout le segment des mid and small, des décotes qu'on peut avoir, notamment par rapport à des titres sur le private equity.
Merci beaucoup.